Le journal présenté par Valentine Joubin.
Bonsoir à toutes et tous. Il n'y aura pas de vote ce soir pour une trêve humanitaire en Syrie. Les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU n'ont pas réussi à se mettre d'accord face à l'opposition de la Russie. Pendant ce temps-là, les bombardements du régime se poursuivent dans la Ghouta orientale. 400 civils tués en 5 jours. Faire son retour en politique depuis l'étranger, Alain Juppé avait choisi le Canada. Marion Maréchal Le Pen préfère les États-Unis. L'ancienne députée du Vaucluse a fait un discours très apprécié devant un congrès conservateur près de Washington. En France, les opposants au projet nucléaire Cigéo évacués par la force de Bure dans la Meuse. 500 gendarmes avaient été envoyés pour les déloger. Et puis il pourrait y avoir une grève des cheminots avant le 22 mars, menace de la CFDT, le syndicat scandalisé que le gouvernement envisage de réformer la SNCF par ordonnance. Face au drame du peuple syrien, l'ONU montre une nouvelle fois ce soir son impuissance. Le Conseil de sécurité devait se réunir en urgence pour le vote d'une résolution qui mettrait en place un cessez-le-feu humanitaire de 30 jours. Un arrêt des combats pour permettre notamment l'évacuation des civils de la Ghouta orientale, l'enclave rebelle près de Damas, bombardée par le régime sans relâche. 400 civils tués en 5 jours, dont une centaine d'enfants. Mais cette trêve n'aura pas lieu, Daniel Hoffman. Elle est repoussée. Le vote est repoussé à plus tard.
Les membres du Conseil de sécurité se sont donc quittés sur une impasse. La Russie avait convoqué aujourd'hui une réunion d'urgence sur la Syrie dans l'espoir de gagner du temps et de repousser le vote d'une résolution imposant une trêve humanitaire de 30 jours dans le pays. Une résolution face à laquelle le Kremlin s'est montré particulièrement réservé depuis le début des négociations. Entamées il y a maintenant plus de 2 semaines, Moscou dénonce la psychose généralisée sur la question de la Ghouta orientale bombardée par les aviations russes et syriennes. Mais c'est surtout la formulation de ce texte, co-rédigé par la Suède et le Koweït, qui pose problème aux Russes qui voudraient des références plus explicites au groupe qu'elle combat aux côtés du régime d'Assad. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France estiment au contraire que la situation sur le terrain ne permet pas de temporiser. Prenons garde à ce que la tragédie syrienne ne soit pas aussi le tombeau des Nations Unies, a mis en garde l'ambassadeur de France aux Nations Unies, François Delattre. Le représentant suédois a lui dit espérer qu'un vote puisse se tenir demain.
Daniel Hoffman, notre correspondant en direct de New York. Nous restons aux États-Unis, mais en prenant la direction cette fois de Washington, le Maryland plus précisément, où se tenait aujourd'hui une importante conférence des conservateurs américains. Et parmi les invités, il y avait une jeune française de 28 ans, ancienne députée du Vaucluse, qui a pris sa retraite en mai 2017. Marion Maréchal Le Pen, oui c'est bien elle, a tenu un discours d'une dizaine de minutes, une intervention très appréciée. C'est le reportage de Grégory Phillips.
Ladies and gentlemen, please welcome Marion Maréchal Le Pen.
Hello, my fellow conservatives.
Le discours d'une dizaine de minutes est tout en anglais. Évidemment, dans la salle, il y a beaucoup moins de monde que pour Mike Pence, mais Marion Maréchal Le Pen est particulièrement souriante dans son intervention. Elle cible l'Union européenne et elle reprend dans sa bouche les slogans de Donald Trump.
Je ne suis pas offensée d'entendre le président Donald Trump dire « America first ». Moi aussi, je veux la France d'abord et pour les Français.
Dans la salle, des Américains curieux, même si parfois on la confond avec sa tante Marine. Oh mon Dieu, dit cette femme, c'est pour ça que je ne l'avais pas reconnue. Mais maintenant que je sais qu'elle n'a que 28 ans, que c'est la nièce, je pense qu'elle devrait être candidate pour être présidente ou vice-présidente avec sa tante. Elles sont phénoménales. Celui-ci note que Marion Maréchal Le Pen est plus conservatrice que le président américain. Idéologiquement, je la trouve plus à droite que Trump. Le parti qu'elle représente en France est beaucoup plus à droite que la foule rassemblée ici au CPAC. Marion Maréchal Le Pen reste à Washington jusqu'à samedi pour rencontrer beaucoup de monde, dit son entourage. Mais les mêmes jurent qu'elle n'a pas signé à cette tribune des conservateurs américains son grand retour en politique.
Un reportage de Grégory Phillips. Les excuses de l'ONG n'ont visiblement pas suffi. Les autorités haïtiennes ont décidé de suspendre pour 2 mois les activités d'Oxfam, sa branche britannique. Il y a quelques jours, l'organisation révélait que certains de ses employés avaient eu recours à des prostituées lors de leur mission en Haïti. C'est une atteinte grave à la dignité du peuple haïtien, a déclaré un membre du gouvernement. L'UNICEF, elle aussi, dans la tourmente. Le numéro 2 de l'organisation a été contraint tout à l'heure de démissionner. Il est accusé de comportements inappropriés envers d'anciennes collègues. Il fallait, dit le gouvernement, empêcher la création d'une nouvelle ZAD comme celle de Notre-Dame-des-Landes, une zone à défendre à Bure dans la Meuse. Et ce soir, effectivement, il n'y a plus personne dans ce village devenu l'épicentre de la lutte contre Cigéo, ce projet d'enfouissement de déchets nucléaires à 500 mètres sous terre. 500 gendarmes ont été mobilisés dès l'aube ce matin pour évacuer la quinzaine d'occupants. 7 personnes ont été placées en garde à vue, Jérôme Jadot.
C'est sous les cris de ralliement des opposants que plusieurs militants sortent menottés de la maison de la résistance au centre de Bure. Un peu plus tôt, des hommes cagoulés perchés sur le toit de cette maison avaient jeté des pierres en direction des gendarmes qui sont ensuite entrés pour perquisitionner. Sylvain était à l'intérieur.
Les flics ont tout cassé, au bélier. Moi, j'ai senti une main sur ma gorge, quoi. Des gens se sont pris des baffes. Qu'est-ce que c'est que quelques jets de pierre face à la violence diffuse d'un projet qui colonise le territoire depuis plus de 20 ans?
Une évacuation lancée par un froid polaire en pleine trêve hivernale, déplore Jacques Leray, porte-parole du CEDRA, association d'opposants. Il se dit stupéfait.
On avait été contacté hier pour rencontrer Monsieur Le Cornu du cabinet de Monsieur Hulot pour débattre de ce problème des déchets radioactifs. Et on s'attendait pas à ce que la concertation soit menée par des gens armés jusqu'aux dents.
Le gouvernement explique lui que l'évacuation n'est que l'exécution d'une décision de justice. Arrivé dans l'après-midi, le secrétaire d'État à la transition écologique, Sébastien Le Cornu, fait le distinguo entre opposants légaux et illégaux, dit-il.
Les opposants légaux, je serai disponible autant que de besoin pour eux. On ne peut pas avoir une réponse de fermeté le matin et derrière fermer la porte à celles et ceux qui s'opposent légalement à ce projet.
Une réunion avec les opposants est prévue demain matin, mais une partie d'entre eux a l'intention de pratiquer la chaise vide. Certains militants envisagent déjà de réoccuper le bois.
Et j'ajoute que plusieurs manifestations ont eu lieu ce soir contre le projet Cigéo à Nantes, Lille, Grenoble ou encore Rennes. Des cortèges de quelques dizaines de personnes. Ils négociaient depuis plusieurs semaines et encore tard ce soir, mais ça y est, syndicats et patronats ont enfin trouvé un accord sur l'assurance chômage. La CFDT et la CFTC préviennent tout de même, ils ne signeront définitivement que si le gouvernement s'engage à respecter le texte dans son intégralité. Le dernier point de discorde était l'indemnisation des démissionnaires souhaitant se reconvertir. Après le code du travail, la réforme de la SNCF passera-t-elle aussi par des ordonnances? L'hypothèse semble bel et bien envisagée par le gouvernement et pourrait même être confirmée lundi par le Premier ministre Édouard Philippe. Cela permettrait à l'exécutif de légiférer plus rapidement sur la base des propositions du rapport Spinetta, avec notamment la très controversée suppression du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés. Mais un tel scénario provoque déjà la fureur des syndicats de la SNCF. Didier Aubert, par exemple, secrétaire général de la CFDT Cheminot, va proposer à ses collègues le dépôt d'un préavis de grève reconductible dès le mois prochain.
Alors qu'on avait entamé des concertations, des rencontres avec le ministère des Transports, là, on apprend, par des indiscrétions gouvernementales non démenties, qu'on veut traiter ce sujet-là avec des ordonnances. Donc on sait que par ordonnance, le sujet de concertation, le sujet de négociation, il est réduit à son plus simple appareil. Le travail parlementaire n'existe plus. Nous, on considère qu'on confisque ce débat qui est d'une importance nationale à la fois aux cheminots, à la fois aux usagers du rail et à la fois aux élus politiques et parlementaires, qui est pour nous une déclaration de guerre. Vous connaissez l'ADN de la CFDT, c'est la négociation. Là, c'est plus une négociation, c'est vraiment un déni de démocratie. Nous n'attendrons pas le 22 mars pour réagir. Compte tenu des délais administratifs tels qu'ils sont prévus et légaux, on pourrait envisager effectivement un dépôt d'un préavis de grève dès la mi-mars, à partir du 9 ou 10 mars.
La CFDT, l'UNSA, la CGT et Sud annoncent qu'elles se réuniront la semaine prochaine pour décider ou non d'une manifestation avant le 22 mars. Il n'y aura jamais de bœuf aux hormones en France. Promesse formulée ce midi par Emmanuel Macron à 700 jeunes agriculteurs reçus à l'Élysée. Manière de faire taire les inquiétudes au sujet de l'accord commercial avec le Mercosur. Et à 2 jours du salon de l'agriculture, le président a aussi annoncé plusieurs mesures pour faciliter l'installation de la nouvelle génération, dont un nouveau dispositif de prêt à hauteur d'1 milliard d'euros. La FNSEA dit attendre des actes concrets. Le Grand Paris Express sera bien réalisé dans sa totalité d'ici 2030. Édouard Philippe en a pris l'engagement ce matin. Le projet est irréversible, a dit le Premier ministre. 4 nouvelles lignes de métro automatiques, donc de 15 à 18, et le prolongement de la numéro 14. Mais ce calendrier ne sera tenu qu'au prix de certains sacrifices. Et pour voir cela en détail, l'invité de ce journal est Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, le Premier ministre a annoncé aujourd'hui qu'il y aurait des retards importants sur certaines lignes du Grand Paris Express. 2 ou 3 ans et même jusqu'à 6 ans dans un cas. Or, à la fin de l'année dernière, vous disiez vous-même que vous vous opposeriez avec la plus grande fermeté à des reports de plus d'1 an. Comment vous réagissez à ce nouveau calendrier ?
Je suis quand même déçu de ces retards. Le problème est qu'on aurait pu aussi imaginer que certaines lignes soient supprimées ou que des bouclages de lignes soient encore retardés beaucoup plus longtemps. Bon, le Premier ministre ce matin a annoncé que le schéma du Grand Paris était respecté et que le projet dans sa globalité serait préservé, que ce serait irréversible. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que nous avions craint qu'il y ait des séquences encore plus prolongées que les autres, compte tenu des milliards d'euros qu'il faut dépenser pour arriver à réaliser ce projet tel qu'il a été prévu. À l'évidence, la majorité précédente, dans ses prévisions, a beaucoup insisté sur les lignes à créer, les gares à créer, puis n'a pas du tout prévu que ça avait des conséquences très fortes sur le financement. Et aujourd'hui, on s'en rend compte, il faut payer. Donc je préfère quand même un projet préservé, même s'il est retardé. Je suis pas content, mais je l'accepte parce que l'important, c'est qu'il soit finalisé. Si c'est deux ans pour certaines lignes, hein, c'est de 2 à 3 ans, 4 ans pour d'autres, c'est long, mais ce n'est pas dramatique.
Alors, parmi les lignes perdantes, il y a notamment la ligne 18 d'Orly à Saclay, le pôle scientifique, un des grands projets de la région. Comment pourra-t-il se développer comme prévu si les transports sont retardés de 3 ans, Patrick Ollier ?
Il se développera comme prévu. Le fait que ça soit retardé de 3 ans, je répète, est une complication, c'est vrai, pour la réalisation des projets. Mais pas seulement pour Saclay. Regardez la Défense, qui est quand même la plus grosse place financière d'Europe. La Défense voit la ligne 15 Ouest retardée aussi de 3 ans. Bien, l'important, c'est qu'elle ne soit pas supprimée. Et je crois que la région a prévu, avec le gouvernement, des bus à haute qualité de service qui pourront...
Des alternatives
Voilà, pendant ce temps-là, rendre des services pas équivalents, mais qui compenseront néanmoins de manière très efficace le retard. C'est discuté ce matin. La région, avec le STIF, est d'accord pour aider au financement. Le gouvernement est d'accord. Donc je pense que dans certaines zones, notamment pour Saclay, mais d'autres aussi, ce système de... j'appelle pas ça de compensation. C'est pas une solution alternative. C'est de l'alternative provisoire.
En attendant.
D'attendre 2-3 ans.
Autre annonce du Premier ministre aujourd'hui, la question du financement. Édouard Philippe dit qu'il va falloir faire baisser le budget de 10%, soit 3,5 milliards d'euros d'économies. Comment on va faire pour trouver cet argent ? Est-ce que la Société du Grand Paris, qui organise les travaux, qui gère les travaux, dispose d'une telle marge ?
Non, pour l'instant, non. Il va falloir trouver des financements nouveaux. Gilles Carrez, qui était président de la commission des finances à l'Assemblée, qui est un spécialiste des problèmes des finances publiques, est chargé de réfléchir avec nous tous sur des hypothèses de financement complémentaires. Le travail n'est pas achevé, donc lorsqu'il sera achevé, on dira les pistes dans lesquelles nous sommes engagés, mais on ne peut pas trouver de l'argent qui n'existe pas. Et c'est vrai que les prévisions ont été peut-être trop fortes. Moi, je ne veux critiquer personne, parce qu'on n'est pas là dans un problème de critique. On est dans un constat. Voilà, on a trop prévu pour des travaux importants et pas assez pour les financer. Donc, il faut trouver des financements. On va trouver les financements.
Quand Édouard Philippe dit qu'il veut rendre le projet du Grand Paris Express irréversible, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on peut empêcher d'autres reports ? On est sûr que ça ne sera pas à nouveau reporté ?
C'est exactement ce qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'il prenait le dossier tel qu'il l'avait trouvé, avec les conséquences que vous connaissez, je ne vais pas refaire l'histoire. Alors on peut pleurer sur les renversés, je suis très déçu de ce retard, je ne veux pas dire le contraire. Mais je reconnais que le gouvernement mérite de prendre une décision qui est une décision qui sacralise le projet. Moi j'avais craint qu'à un certain moment le gouvernement dise « écoutez, c'est pas possible, on supprime telle ou telle partie du Grand Paris Express ». Ça, ça aurait été une catastrophe nationale.
La SGP, donc la société publique en charge des travaux, a été critiquée pour sa mauvaise gestion par la Cour des comptes. C'est pas très rassurant pour la suite ?
Non, moi je chargerai pas la SGP parce que les personnes qui l'ont dirigée sont des gens qui sont responsables. Ils ont fait ce que le gouvernement leur a demandé de faire. Parce que c'est une société publique qui dépend de l'État. Et la SGP n'aurait jamais fait ce qu'elle a fait si l'État, qui est l'actionnaire principal de la SGP, ne l'avait pas autorisé à le faire. il faut remettre les responsabilités où elles sont. Je pense que les responsabilités sont dans le gouvernement de François Hollande.
Je vous remercie Patrick Ollier. Je rappelle que vous êtes président de la métropole du Grand Paris. Quel temps pour demain, vendredi? Ce sera froid et sec en général, plus de nuages et des averses sur le sud-est et la Corse. Les températures matinales partout négatives, entre moins 5 et moins 1 degré. L'après-midi, le thermomètre affichera de 4 à 12 degrés et jusqu'à 14 en Corse.